Salutations fraternelles en Christ Jésus, tous ceux qui sont là régulièrement, ceux qui nous visitent également. À maman d'Étienne est là aujourd'hui, hein? Bonjour, maman d'Étienne. Ça va mieux, là, l'inondation? Ça s'assèche progressivement? Oui, c'est des épreuves quand même, hein, qui ne sont pas toujours simples et faciles à gérer. Nous avons déjà chanté la prédication. Vous aurez vraisemblablement noté que dans un culte, dans une liturgie, tout converge vers la prédication de la parole qui est le cœur de chacune de nos réunions. Nos réunions ne sont pas pour nous-mêmes. Nos réunions sont toujours pour élever notre Dieu dans notre louange, dans notre écoute. Et si nous étions dans une classe de théologie, en tant que bon prof, je vous dirais, après la prédication, j'aimerais que vous preniez tout ce qui a été dit dans nos cantiques, les vers qui ont été là, pour les associer aux éléments que nous avons dans la prédication, parce qu'on l'a vraiment chanté au complet, la prédication, aujourd'hui. Vous savez, parfois on chante, on n'y pense pas beaucoup, on pense à la mélodie, c'est une mélodie qu'on pense, on tape un peu du pied, on pense à autre chose, mais c'est extrêmement important d'investir nos cœurs lorsque nous chantons à la louange de notre Dieu. Notre jubilaire est ici aujourd'hui. Oui, on sait que c'est un grand jour, la fête de Caleb, le petit Caleb, là, qui ne recule devant rien et qui célèbre ses 5 ans, qui les a célébrés hier. 5 ans. Oui. 5 ans. Il y a 72 ans passés, j'ai eu 5 ans. Vous savez, c'est des bons souvenirs quand même. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur, si vous le voulez bien, puis je pense que vous le voulez certainement, dans l'Apocalypse. N'oublions pas de prier également pour notre sœur Lana, qui n'est pas bien, qui ira voir le médecin demain. Que le Seigneur puisse restaurer notre sœur, notre frère Christian, Pamela, et les enfants qui sont en route vers l'Ontario, présentement des vacances, et notre frère Stéphane, qui est aussi en voyage, comme on le sait. Donc, nous revenons à l'Apocalypse, chapitre 12. Nous avons commencé, il y a 2 semaines, à voir ce chapitre-là. On a vu les versets 1 à 6. Nous allons le terminer aujourd'hui, si le Seigneur le permet. Nous lirons les versets 7 à 18. Donc, Apocalypse 12, les versets 7 à 18. Notre Père, on te prie de bénir cette méditation, cette réflexion sur cette parole si importante, si fondamentale, que nous allons sonder à nouveau aujourd'hui. On te le demande en Christ Jésus. Amen. Il y eut une guerre, enfin, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé. » ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On vient de chanter, pour vaincre le malin, il suffit d'un mot de la foi, la parole de leur témoignage. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, comme le disait notre frère dans sa prière tout à l'heure, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus, et il se tint sur le sable de la mer. » Comme nous le mentionnait si bien notre frère Luc il n'y a pas si longtemps, nous sommes vraiment devant le cœur de ce livre de l'Apocalypse. Nous avons en capsule, en synthèse ici, toute l'histoire de la rédemption. C'est très synthétique, mais c'est très clairement illustré. Ce chapitre 12 de l'Apocalypse n'est rien d'autre que le défilé de toute l'histoire de l'Église sous la forme d'une vision. La vision d'une femme, la vision de son fils et un grand dragon rouge. Comme nous l'avons vu, cette femme tient lieu d'église et c'est à travers elle, n'est-ce pas, que Dieu va envoyer son fils, le sauveur dans le monde. Et le dragon, c'est Satan, le démon. Il y a plusieurs titres qu'on lui donne dans le texte, l'accusateur des frères et encore, qui, après l'ascension du Christ en puissance, persécute l'Église. Il faut garder à l'esprit que tout cela prend place dans le cadre de Genèse 3.15. Pourquoi est-ce que le dragon voulait tant et tellement détruire l'enfant qui venait de l'Église en raison justement du fait qu'elle allait se faire écraser la tête, à partir de la grande promesse évangélique, eschatologique de Genèse 3.15, que la postérité de la femme allait lui écraser la tête? Au verset 1 à 6, les protagonistes ont été introduits dans cette guerre sainte, et ce que nous savons, c'est le comment de la victoire de Dieu sur les démons par la naissance et le ministère du salut en Christ Jésus. Et au verset 7, ce n'est pas un nouveau récit qui vient, on revient sur le même récit d'avant, mais avec plus de détails. C'est la même guerre qui se poursuit contre les croyants. Satan s'est fait littéralement découdre par la venue du Christ, de sorte que son activité est considérablement réduite. Sa rage n'a pas été pour autant assouvie, de sorte qu'il continue à se débattre avec les ressources qui lui restent dans cette guerre spirituelle qui marque cet âge entre la première et la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons tous qu'il y a deux âges seulement. Il y a l'âge mauvais dans lequel nous vivons et il y a l'âge à venir. C'est bien ce que nous enseigne la parole. On ne nous enseigne pas 3, 4, 7, 8 âges, comme dans certains milieux on l'enseigne. Il y a deux âges, l'âge présent et l'âge à venir. Et l'âge à venir, puisqu'on croit à une eschatologie incoative déjà amorcée, pour les croyants, a déjà commencé à prendre place. Mon premier point, donc, c'est la guerre dans le ciel. D'entrée de scène, le texte nous dit « Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Pour bien saisir ce passage-là, il nous faut réaliser que cette bataille-là a pris place quand? Elle a pris place pendant la vie et le ministère de Jésus, ministère qui a culminé avec son ascension au ciel. Lorsque les anges ont été jetés hors du ciel, lorsque Satan a été jeté hors du ciel, c'est effectivement lors de la victoire que le Christ a remportée par son ministère sur terre. Le verset 13 ajoute, « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. » C'est dire que ce grand dragon rouge feu, nous est-il dit, a été précipité sur la terre tout juste avant le début de l'Église du Nouveau Testament. Je remploie le mot dispensation, mais ça aurait été confondant. On se rappellera ces paroles de Jésus au retour des 70 évangélistes qu'il avait envoyés. en Luc chapitre 10, versets 17 à 18. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Où trouve-t-on telle affirmation ailleurs dans l'Écriture sainte? Hein? C'est vraiment à partir du ministère de Jésus, de sa victoire de sa crucifixion et de son ascension. « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Il venait littéralement de se faire mettre à la porte du ciel, si vous me passez l'expression. Et en Jean 12, 31, Jésus renchérit. Jésus, parlant de sa mort prochaine en croix, de dire, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Vous voyez, c'est exactement la même pensée. Satan, à partir du ministère de Christ, est jeté dehors. Alors, il avait beau jeu, il avait accès au ciel. On se rappellera que dans le livre de Job, entre autres, il se présente devant le Seigneur et qu'est-ce qu'il fait? Il accuse. Le Seigneur a dit, « As-tu vu Job, mon serviteur? À quel point il est intègre? Oui, mais c'est parce que tu le chouchoutes, tu vois. Envoie-lui quelques épreuves et tu vas voir la différence. Hein? » On sait que son but est toujours de tenter de détruire, d'accuser et de condamner. La victoire de Jésus, donc, sur la croix, son couronnement avec son ascension sur le trône céleste, ont défait Satan et son armée, de sorte qu'il n'y avait plus d'accès pour eux dans le ciel. OK. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour Satan d'être jeté hors du ciel? Satan n'est pas devenu un sans-abri. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire pour lui de ne plus avoir accès au trône, de ne plus pouvoir aller au ciel? Bien, le verset 10 répond à cette question-là. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé. » Vous voyez? Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas eu des gens sauvés avant, mais le véritable accomplissement, l'accomplissement ultime et final du salut, il est en Christ Jésus. « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Mais c'est ça que ça veut dire, qu'il était mis hors du ciel. Le Christ a réduit au silence toute tentative d'accusation contre les chrétiens devant Dieu. Il n'y a plus maintenant aucune accusation, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Christ qui justifie, qui sanctifie. Hein? Une grande voix dans le ciel, il va d'un prononcé de sentence sans équivoque. Littéralement, Satan, passez-moi un tout petit peu l'image, là, puisque hein, il a été radié du barreau. Il était l'accusateur, il était le procureur. Hein. Il a été radié du barreau. Il n'est plus le procureur qui, jour et nuit, accusait les chrétiens à la cour divine. Il ne peut d'aucune manière saboter notre salut. On sait que jusque-là, Satan, un peu comme les colporteurs de l'époque, hein, avait toujours le pied dans la porte du ciel, mais vraiment, ce n'est plus le cas. La place est maintenant occupée par qui? Amen, par Jésus lui-même. Avant, on avait ce procureur qui nous condamnait, maintenant, on a cet avocat de la défense qui est constamment en train de prendre notre part. La place est maintenant occupée par Jésus, notre avocat, notre paraclétos, hein, notre paraclet auprès du Père. La croix a gravé à jamais la victoire décisive sur la puissance de Satan avec ses conséquences cosmiques. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous citer Colossiens, qui est une de mes épîtres favorites d'ailleurs, malgré qu'on ne devrait pas avoir d'épîtres favorites. Toute la Bible est notre favorite, hein, mais on a quand même des petits penchants vers certains textes. Colossiens chapitre 2, versets 9 et 15 nous dit, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous étiez mort par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et voilà, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ce qui m'amène à mon deuxième point, la victoire du Christ et la victoire en Christ. On ne mettra jamais suffisamment d'emphase sur ce passage-là. Combien c'est important pour les chrétiens de comprendre comment Christ a défait notre accusateur et comment nous-mêmes, cet accusateur-là, on le met en déroute aujourd'hui. La verset 11 nous dit non seulement que Christ a vaincu Satan, mais que son peuple vit, son peuple expérimente, se positionne, confirme cette victoire-là du Christ. Le texte nous dit en effet, ils l'ont vaincu à cause. Comment l'ont-ils vaincu? Dans mon acte Saint-Jonathan, on dirait à cause de quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà la cause ou les causes, si vous voulez, d'une vie chrétienne, non pas une vie chrétienne misérable, mais une vie chrétienne dans la victoire du Christ. On a un bel exemple de cette réalité-là un peu plus loin. Dans un premier temps, on voit que c'est par le sang de l'agneau que les croyants renversent les accusations du malin. On n'essaie pas de comparer les bonnes œuvres qu'on a faites, on n'essaie pas de faire appel à quelque chose de bien qu'on aurait fait. C'est toujours par le sang de l'agneau que notre plaidoirie s'échafaude. La raison pour laquelle Satan se présentait au ciel pour nous accuser, c'est qu'il cherchait notre damnation éternelle sous la loi de Dieu. Hein? Lorsqu'on n'est pas en Christ, on est encore sous cette loi-là. Il n'y a aucune accusation qui peut être enlevée. Toutes les accusations continuent de peser très, très lourdement. Lorsque nous sommes en Christ, ils ne sont plus là. On a un bel exemple de cela dans Zacharie, chapitre 3, verset 1. Je sais que c'est un texte qui nous est très familier. On y lit, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant un personnage bien connu, l'ange de l'Éternel, Jésus. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. » Voilà. Et le verset 3 nous dit que Josué était en fait coupable de péché. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. À titre de grand prêtre d'Israël, Josué, bien sûr, représentait toute la nation d'Israël qui avait été amenée en exil en raison de son péché, en raison de son idolâtrie. La dernière chose que Satan voulait, c'était bien de voir Dieu les restaurer et les ramener à Jérusalem et les voir reprendre leur adoration de Yahweh. Et c'est précisément ce genre d'accusation auquel Michel et ses anges ont mis un terme en raison de la conquête du sang de l'agneau. Avant la mort de Jésus, Satan avait beau jeu pour condamner le peuple de Dieu. Il ne manquait pas d'argument dans son accusation du roi David lors de son abominable adultère avec Bathsheba, en plus le meurtre de son mari Uri, n'est-ce pas? Il n'était pas non plus à court d'évidence pour accuser Moïse et tous les autres croyants de l'Ancien Testament que Dieu a admis dans le ciel, ces croyants-là, en raison de leur foi dans l'Évangile du Christ à venir. Mais lorsque Christ est venu offrir son sang comme agneau de Dieu en paiement de la pénalité pour les péchés de son peuple, il n'y a aucune charge qui ne pesait contre eux à la cour de notre Dieu. Vous voyez, lorsque la loi est satisfaite, il n'y a plus d'accusation. Et c'est ce qui apparaît dans l'exemple de tantôt, dans le livre de Zacharie, qu'on a lu. Chapitre 3, verset 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. Hein? » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. » C'est nous autres, ça, bien-aimés. C'est les croyants, ça. C'est l'œuvre que Dieu a faite. Enlever les vêtements sales et mis des vêtements de fête. Nos cœurs sont dans la joie. Et c'est sur cette base que nous avons un prononcé de sentence contre Satan. Chapitre 3, verset 2 de Zacharie. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Le Christ a pris les vêtements souillés de Josué sur lui-même et a porté le châtiment de son péché sur la croix. C'est ce que nous appelons l'imputation. Que veut dire l'imputation? Mettre au compte de. Hein? On met à notre compte la justice du Christ. Ce n'est pas que Dieu décide d'oublier les péchés pour part à zéro. Tous les péchés doivent impérativement être expiés, et c'est ce que le Christ a fait. Et sa justice nous est imputée, et sur la croix, notre péché lui a été imputé. Romains 8:1 nous dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et parfois, nous pouvons, comme chrétiens, devenir, nous faisons plus que pouvoir, ça nous arrive, je pense à tous, de devenir un peu confus parfois par rapport au salut, troublé quant à la réalité du salut. On peut même en quelque part risquer nous-mêmes de devenir l'accusateur des frères parfois. Hein? On peut prononcer des opinions, c'est une chose, prononcer des jugements, ça en est une autre. Hein? C'est extrêmement important que notre théologie s'érige sur la parole de Dieu, et non sur les témoignages des gens autour ou sur nos propres luttes. Qui de nous n'a pas douté de son propre salut? Dans nos péchés à répétition, avant qu'on ait une victoire décisive sur certains péchés, qui de nous n'a pas douté de son salut? Comment puis-je prétendre être sauvé alors que je suis encore aux prises avec ça, incapable, pas assez de volonté pour prendre la victoire là-dessus? Qui de nous ne s'est pas senti condamné? Qui de nous n'a pas été son propre accusateur ou sa propre accusatrice? Hein? Dans certains cas, c'est un bien-être que de se remettre en question, mais dans le salut, dans des circonstances comme celle-là, dans la grande mouvance qui est la nôtre, dans ce long parcours qu'est la sanctification progressive, il faut éviter cette espèce d'autoflagellation. Il faut avoir ce désir de grandir dans la sainteté. Il faut avoir une fin pour Dieu. D'ailleurs, c'est intéressant. La Bible ne nous dit pas que ceux qui ont ceux qui ont accepté Jésus sont bénis. La Bible nous dit que ceux qui aiment Jésus sont bénis. C'est une histoire d'amour, vous savez, avec le Christ. Quand on aime, on veut faire plaisir. Quand on vit uniquement dans la crainte, on essaie d'éviter de faire des gaffes pour notre propre peau. Mais quand on aime, la mouvance est complètement différente. On le fait par amour pour la personne qu'on aime et parce qu'on veut lui plaire. On ne veut pas lui faire de chagrin, de quelque sorte que ce puisse être. Je disais dans la prédication à Québec la semaine dernière qu'un impératif moral suit l'indicatif eschatologique. C'est une grande expression un peu pompeuse, mais elle est très simple, somme toute. Ça veut simplement dire que notre éthique ne peut pas venir avant notre salut. L'impératif moral, ce que nous sommes appelés à faire, doit impérativement venir après la nouvelle naissance, après l'indicatif eschatologique, après l'œuvre que Dieu a faite dans nos cœurs. C'est à partir de ce moment-là que l'œuvre commence à se bâtir progressivement. Et je dis progressivement, lentement, parce que ça se fait lentement. On sait que même lorsque le Christ va revenir, il n'aura pas encore terminé son œuvre en nous. On aura encore bien des failles. Ça n'excuse pas le péché. On n'est pas en train de parler d'excuses de péché. On est simplement en train de parler du train de la rédemption, comment ça fonctionne. Matthieu chapitre 13, 24-30 nous dit, « Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Ah, il leur répondit, « Ben, c'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs, pleins de zèle, j'en ajoute un peu, et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Ça veut dire qu'il y a une grande ressemblance entre les deux. S'ils y allaient, il y avait ce danger qu'ils arrachent autant le blé que l'ivraie. Le Seigneur dit, laissez cette tâche-là aux anges qui vont venir en dernier, à ceux qui seront assignés pour cette tâche-là. Nous ne sommes pas sauvés par notre éthique, bien-aimés. Cependant que le salut a un gros impact sur notre éthique. On ne peut séparer l'éthique du salut. Une petite pratique, ma prédication de dimanche prochain à Québec. Les deux vont de pair. Et ça nous rappelle les trois tests d'une foi véritable qu'on retrouve dans la première épître de Jean. Le texte doctrinal, 1 Jean chapitre 5, 13, nous dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Ça ne se négocie pas, ça ne se contourne pas, c'est le test doctrinal, c'est le premier. Il y a une connaissance impérative dans le salut. Une connaissance, afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu, que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, savoir, ça fait partie de la catégorie de la connaissance, que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Mais il y a le test moral qui vient avec. On entend souvent dire des gens qui disent, oui, j'ai cru en Jésus, oui, j'ai reçu, j'ai accepté, Jésus, et ça se limite à cela. Le test moral nous dit, 1 Jean 3,6, quiconque demeure en lui, ne pratique pas le péché, c'est-à-dire quiconque demeure en lui n'a pas une vie qui est constamment dans la pratique du péché. Il y a quelque chose, il y a une rupture quelque part qui s'est opérée et qui continue encore de s'accentuer. Et bien sûr, il y a le test social. Celui qui nous fait le plus transpirer, à mon avis. Test social, 1 Jean 2,10 qui nous dit « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. » Qu'est-ce que ça veut dire aimer son frère? Être chez soi puis lui envoyer des petits courriels d'amour? Devenir des amis, des amis Facebook? Non. Le test social, vous savez, c'est d'être partie prenante de l'Église. Quand quelqu'un nous dit qu'il est chrétien, qu'il aime le Christ, puis qu'il ne veut rien savoir du corps de Christ, pour moi, c'est une contradiction absolue. Je mets très littéralement en doute la réalité du salut de cette personne-là. Lorsqu'on appartient au Christ, on veut être avec les frères. C'est notre nouvelle société. Les gens pieux du pays sont l'objet de mon affection, disait David. C'est la même chose pour nous. On veut être avec ceux qui parlent du Christ, ceux qui aiment le Christ. On veut s'interédifier mutuellement avec eux. Non pas dire rester chez nous, puis en 1986, j'ai accepté le Christ, je suis sauvé. C'est un très, très grand leurre. C'est un grand mensonge, vous voyez? Alors, les trois tests, doctrinal, moral et social, sont d'une grande importance. Bon, donc, dans un premier temps, m'excuse, on a digressé un peu, c'est par le sang de l'agneau que les croyants renversent les accusations du malin. Le texte ajoute une autre cause de victoire, au verset 11. « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. » Satan aimerait bien que la nouvelle de sa défaite reste aussi secrète que possible. Mais lorsque les chrétiens répandent la bonne nouvelle du pardon à Christ, le pouvoir du malin est grandement diminué. Don Carson, comme vous le savez, qui vient de Montréal d'ailleurs, qui enseigne aux États-Unis, a écrit quelque chose qui mérite d'être cité, je vous le traduis. L'armée des ténèbres est repoussée par les chrétiens qui rendent témoignage. Qui témoignent de qui est Dieu et ce qu'il a accompli en Christ Jésus. Comment pouvons-nous autrement chasser Satan et ses anges? Nous serons vaincus si nous gardons simplement le silence. Si vous ne témoignez jamais de l'Évangile à quelqu'un, vous êtes vaincus. Vous ne repoussez pas les frontières des ténèbres. C'est ainsi que Satan est défait par le sang de l'agneau et la parole de votre témoignage. Je trouvais que c'est une parole tout à fait appropriée dans les circonstances. Et toujours dans ce verset 11-là, il y a une troisième cause de victoire pour le chrétien. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On ne peut pas enlever cette proposition-là non plus. Un chrétien n'est pas en recherche d'un paradis terrestre. Il est prêt à faire face à la souffrance sous différentes formes. Parce que ce n'est rien de moins que de porter sa croix. Souffrance intellectuelle, alors qu'on se moque de lui, qui prend sa croix et qui suit Jésus au quotidien. Pour d'autres, ça peut être une souffrance physique. On n'a qu'à penser à toute la panoplie d'épreuves, etc. La vie chrétienne, c'est une croix à porter. Pour un temps, c'est la croix avant la couronne, bien sûr. On pourrait en dire très très long là-dessus. On n'est pas en train de faire l'étude exhaustive du texte parce qu'il y a beaucoup de matière dessus. Ça m'amène à mon troisième point, les efforts désespérés de Satan. Le verset 12 explique la situation des chrétiens. En fait, la situation de l'Église après l'ascension de Jésus, on y voit deux résultats. Bon, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachez qu'il a peu de temps. Alors, joie au ciel, épreuve sur la terre. Hein? C'est un peu cette combinaison qu'on retrouve jusqu'au retour du Christ. Viennent ensuite les versets 13 à 18. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où il est nourri un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent ses commandements, ou les commandements de Dieu, et qui retiennent le témoignage de Jésus, et il se tint sur le sable. Bon, on est en train de revenir ici exactement à la vision du verset 6, qui se répète, comme on disait tantôt. La femme se voit donner des ailes pour fuir au désert. On avait vu au verset 6, hein, qu'elle avait une place préparée pour elle au désert, où elle serait nourrie. Ici, le Seigneur dit qu'il lui donna des ailes pour qu'elle se rende au désert et pour l'amener vers lui. Ce n'est pas sans nous rappeler ce que le livre de l'Exode nous a déjà parlé, lorsque le peuple de Dieu était conduit vers la terre promise. On se rappellera qu'ils s'en allaient pas là par leur propre force, mais qu'il y avait une conduite divine là-dedans. Et le Seigneur de dire dans Exode 19:4, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené vers moi. » C'est notre quotidien. Il a donné des ailes d'aigle. On a l'impression parfois de faire du rase-motte un peu, hein, souvent de fois. Hein? Dans notre quotidien, l'image est belle, mais elle est un petit peu plus rude, un peu plus rugueuse à vivre au quotidien. Hein? Ce n'est pas aussi bucolique qu'on pourrait l'espérer, mais la réalité est là. Nous avons cette protection du Seigneur. L'Église est sous la protection de son Dieu. Et cette dernière section de notre péricope dépeint les tentatives sataniques d'affliger l'Église sur terre, puisqu'il ne peut plus l'accuser, hein, il ne peut plus accuser les chrétiens au ciel. Non pas qu'il peut enlever notre salut, mais il est conduit par la pure malice face à sa défaite, sachant fort bien qu'il ne lui reste que peu de temps. Et c'est un grand encouragement pour nous, je pense, dans toutes nos difficultés. Si vous avez l'occasion d'en avoir une à l'occasion, c'est un grand encouragement pour nous dans toutes nos difficultés. Tantôt, ce sont les gouvernements qui compliquent la vie de l'Église. Tantôt, ça peut être la société. Tantôt, ça peut être les amis. Tantôt, ça peut être l'Église même. Et tantôt, c'est nous-mêmes. Verset 15 à 17 nous dit, « Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, qu'on l'a lu tantôt. » Dans l'Apocalypse, qui vient de la bouche, est toujours symbole des paroles et de leur puissance. On a un bel exemple de cela au tout début du livre, au chapitre 1, verset 16, où nous voyons le prononcé du jugement du Seigneur Jésus-Christ contre les faux enseignants. Il nous est dit, « De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. » De la bouche sort la parole et sa puissance. Les paroles puissantes du jugement du Seigneur contre les faux enseignants. Ici, ce fleuve sortant de la bouche du dragon symbolise des paroles puissantes, des paroles trompeuses, des paroles de séduction qui représentent son arme la plus destructrice. Chose certaine, l'œuvre de Satan, c'est de tenter de submerger l'Église, de couler l'Église sous un flot de mensonges, après tout, hein? Nous dit Jean chapitre 8, n'est-il pas le père du mensonge? Matthieu chapitre 7, verset 15 nous dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Les philosophies humanistes, les fausses religions, un christianisme émasculé, les illusions politiques, les séductions économiques, les pseudo-théories scientifiques comme l'évolution et les millions d'autres mensonges éhontés qui ont cours et qui viennent du malin vécu. Satan ne manquera pas de dire à l'Église que la Bible comporte des erreurs, que les hommes sont foncièrement bons, que santé, richesse et bonheur sont les buts du christianisme. On n'a qu'à penser à la théologie de la prospérité, la théologie de la guérison coûte que coûte. Que l'action sociale, c'est la mission de l'Église. Qu'est-ce qu'il aurait dit à Pierre et Jean qui montaient au temple et on a ce pauvre boiteux, n'est-ce pas, qui quêtait de l'argent. Pierre et Jean les regardent et là, il s'attend à recevoir une bonne somme. Et Pierre lui dit, non, la richesse de l'Église, ce ne sont pas ses sous. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. C'est ça, la richesse de l'Église. C'est le pouvoir de proclamer le salut en Christ Jésus et de communiquer par cette proclamation-là une nouvelle vie à des perdus. Il ne manquera pas non plus de vous dire que la fréquentation de l'Église, c'est facultatif. C'est uniquement si tu n'as pas de visite, si tu n'es pas trop fatigué, et en bout de ligne, si ça te tente. Est-ce qu'on n'entend pas souvent des gens dire, « Ben là, je suis allé à l'Église, j'ai senti que j'en avais besoin. » On parle de théologie ici, hein? Le quatrième commandement est devenu tout à fait obsolète pour ces gens-là. L'homme est souverain et la moralité est relative. C'est d'un impératif indiscutable de réaliser que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on expérimente, n'est pas toute l'histoire. Il y a tout l'invisible, il y a tout le spirituel derrière. Il y a cette guerre sans merci que nous livre l'ennemi de nos âmes. Tout ce déluge de mensonges ne vise qu'à faire déraper l'Église du chemin de la foi biblique, de sa mission et de son Dieu. Et il y a eu des tentatives énormes, très subtiles, très tentantes. Hein? Le monde, dit-on, est un monde prédateur. Et il y en aura d'autres encore plus séduisantes. Que Dieu puisse nous garder. La vision de ce chapitre-là, cette vision d'une bataille ultime, en fait, ça érige un pont, ça établit une connexion entre ce qui s'est produit à la croix, ce qui s'est produit au ciel et ce qui se produit également dans chacune de nos vies. Et il y a trois choses que j'aimerais qu'on retienne en terminant. Premièrement, se rappeler l'ensemble du panorama, l'ensemble de l'image. Notre culture postmoderne nous dit qu'il n'y a pas d'image, qu'il n'y a pas, pour employer une expression contemporaine un peu discutable, qu'il n'y a pas de méta-récit, vous savez, ce référentiel qui donne un sens, une explication à tout ce que nous vivons, à nos petites vues obscures. Qu'il n'y a que de petites histoires et beaucoup de chaos, mais que ça mène nulle part. En fait, des gens prêts à confesser avec 1 Corinthiens 15, 32, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Hein? Mais la Bible nous enseigne qu'il y a une image. Il y a un dessin global. Et il n'apparaît nulle part aussi clairement que dans ce chapitre-ci. Ces 18 versets-là couvrent plusieurs milliers d'années. La vie de millions de gens, la réalité céleste, un rude combat impliquant des anges, des démons et le Fils de Dieu tout autant que l'humanité, et tout cela dans une seule et inclusive histoire. C'est ce qui donne signification à nos vies, mais notre culture postmoderne choisit de l'ignorer. Et c'est l'œuvre de Satan qui sait fort bien que si les gens se rappellent ce dessein global, ils vont bien sûr aussi se rappeler qu'au-delà des combats de mon petit quotidien, Satan a été défait. Et dans cette perspective-là, il y a le jugement dernier. Les cieux chanteront les louanges de Jésus, notre roi, et nous nous joindrons à eux. Dans ce tableau global, comme on l'a lu, hein, le Seigneur protège les siens, les croyants sont en sécurité et gardés jusqu'au retour du roi. Ce que nous faisons entre-temps, cependant, a une grande signification. Le malin aimerait bien nous voir la tête basse. Le malin aimerait bien nous voir concentrés sur notre petite vie et nos occupations, oubliant le reste. Dave et moi, lorsqu'on est allé prier avant le culte, on en parlait tout à l'heure. Nos vies sont donc remplies. On a tellement de choses à faire. Il semble qu'on est en retard tout le temps, surtout qu'on court derrière. Il semble qu'il reste tellement peu de temps pour les vraies choses, les choses spirituelles. Le temps de lire la parole, le temps de prier, le temps de la communion, le temps de l'Église. L'ennemi a tellement réussi à remplir nos vies, à les pacter littéralement, qu'on dirait qu'il ne reste plus de temps pour les vraies choses. On court après notre mort, hein, somme toute. Le combat avec la tentation et le péché chaque jour ne fait pas que nous concerner, il fait partie de cette lutte cosmique entre le bien et le mal. Il n'est qu'une petite part de cette gigantesque bataille qui fait rage siècle après siècle et qui va vers sa conclusion, et nous faisons partie de cette grande histoire-là. D'où l'importance, comme on dit souvent, to keep first things first, de garder les choses premières, premières. Deuxièmement, il est nécessaire de connaître notre ennemi. La plupart des gens aujourd'hui, on est supposé être rationnel, ne croient pas à l'existence de la personne du démon. Et le malin ne peut que s'en réjouir, c'est d'ailleurs l'un de ses plus grands mensonges. Pourtant, n'est-il pas présent partout? Quand on refuse à des Olympiens qui viennent de rapporter une médaille de rendre gloire à Dieu publiquement pour cela, on est en train de les priver de ce qu'ils sont. Des êtres humains à l'image de Dieu, vous savez, il va venir un temps où les Olympiens vont devoir dire « Je regrette, mais je rends gloire à Dieu pour ma médaille. » Comme ce bonhomme, il y a quelques siècles, qui avait refusé de courir aux Olympiques parce que c'était le jour du Seigneur. Il va falloir un peu plus d'audace, un peu plus d'insistance de la part des croyants pour rendre témoignage à leur Dieu, quoi que cela puisse en coûter. Mais ils n'ont pas craint de perdre leur vie, nous dit le texte que nous avons lu tout à l'heure. Nous avons un ennemi qui nous déteste d'une haine parfaite. Et vous savez quoi? Ça fait des milliers d'années qu'il pratique. Alors il sait comment agir avec ça, avec ses stratégies. Il a aiguisé ses méthodes au maximum. Soyons à l'image de Paul, capable de dire « Nous n'ignorons pas ses desseins. » C'est pas « J'ai été malchanceux, il m'est arrivé un accident, pourquoi est-ce que ça m'arrive? » Non, nous n'ignorons pas ses desseins. On est toujours en train, dans notre croissance spirituelle, de grandir en pensant à partir de notre théologie, pas à partir de nos émotions, pas à partir de notre être naturel, mais on doit penser à partir de notre théologie. Penser les pensées de Dieu après lui. Et troisièmement, nous sommes vainqueurs. C'est pas une bonne nouvelle. C'est tout ce qui reste à faire, passez-moi l'expression un peu rapide, là, c'est de passer la mop. Hein? Ça a été défait, là, on fait le ménage maintenant. Passez la mop, pour ainsi dire. Quoi que ce soit que nous puissions ressentir, si nous appartenons à Jésus, nous sommes du côté du vainqueur. Notre triomphe est celui du sang de Jésus, notre héros, notre champion, et nous avons une belle histoire à partager. Amen.